productive et belle et pleine de jolies découvertes en recherche ou ailleurs pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une séance sur l'art et la mode, mais avant que Sophie introduise la séance et Catherine et les autres speakers de la journée, je voulais juste vous parler d'un nouveau format du séminaire qu'on a avec Sophie, qui est un format pop-up, c'est-à-dire hors les murs de l'IHCP. Et notre première se passe lundi. À Parsons Paris. C'est avec Agnès Rocamora qui vient de publier un livre sur Thinking Theory. C'est un livre avec une vingtaine d'auteurs qui écrivent des articles critiques sur les théoriciens de l'histoire de la mode. Et Agnès a écrit l'introduction. Et elle va venir à Parsons pour une Q&A en anglais lundi. À 16h, 16h je pense. Je ne me rappelle plus. 18h. 18h30. Voilà. Et on a 10 places disponibles si vous voulez. Donc ça, c'est lundi en anglais. Et le lendemain matin, on va faire un format en français, encore plus intimiste. Ça sera chez Farid Chenoun. En français pour parler avec Agnès de théorie de la mode dans un format très intime. Et là, on a encore 5 places disponibles. Donc, pendant la pause, si vous voulez soit participer lundi en anglais à Parsons, soit mardi à 19h chez Farid en français, venez nous parler et on vous mettra sur la liste. Voilà.
Sophie. Alors, à mon tour donc, d'introduire cette séance consacrée à l'art et la mode. Donc cette première séance, on l'a organisée un peu comme à chaque fois, avec des chercheurs, des auteurs, avec un nouvel ouvrage sur l'art et la mode, qui s'intitule « L'art de la mode » et qui a été rédigé par Catherine Hermann, qui ça va être notre première intervention. Donc c'est un ouvrage qui vient de paraître là très récemment aux éditions Citadel et Masneau. Donc on va vous faire passer un exemplaire de l'ouvrage pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Après, on écoutera Élise Ruano qui nous parlera de l'art et la mode au 18e en s'interrogeant sur les contacts entre l'histoire de la mode et l'histoire de l'art, en s'interrogeant sur est-ce que la mode est de l'art, est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de l'histoire de l'art pour comprendre et élaborer l'histoire de la mode. Et on fera une petite pause qui est toujours la bienvenue. Et ensuite, on écoutera Ulrike Blumenthal qui nous parlera des photos d'artistes d'ateliers d'artistes dans les années 30 qui sont publiés dans les magazines de mode. Et donc là encore, s'interroger sur le statut de la mode, de ses liens avec l'art dans les années 1930. Donc je vais d'abord vous laisser la parole, Catherine. On vous remercie infiniment d'être là pour présenter ce magnifique ouvrage. Donc, ce n'est pas votre premier ouvrage. Vous êtes chercheuse freelance et vous travaillez sur plusieurs projets d'exposition, un livre sur la lingerie. Vous êtes aussi commissaire d'exposition. Et donc votre dernière création... L'art et la mode, vous l'avez tous sans doute vu. Une édition spéciale de Citadel et Masneau. Donc, je vous laisse l'exemplaire. Et voici le coffret. Je pense que vous l'avez tous vu. C'est doré. C'est inratable. Donc, merci beaucoup.
Il y en a un qui circule.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour et bonne année. Je suis très contente et très honorée d'être parmi vous pour vous présenter ce livre qui célèbre le cinquantenaire d'une collection, la collection Art et Civilisation aux éditions Citadel et Masneau, qui avait commencé par le très prestigieux livre consacré à la préhistoire par le roi Gouran, qui a été suivi par des livres sur l'antiquité égyptienne, sur l'art égyptien, etc. Donc là, je suis contente de vous présenter cet ouvrage qui a un titre qui peut porter un peu à confusion parce qu'il ne s'agit pas vraiment des rapports entre l'art et la mode, mais simplement de considérer, enfin aux yeux de Citadel et Masneau, de considérer la mode comme un art. Alors, ce livre, évidemment, propose une iconographie qui est très belle, qui est très riche, qui est très soignée, en fait. Chaque détail est lisible jusque vraiment au millimètre près. On peut voir aussi bien des détails de la peinture que les détails des vêtements qui sont particulièrement impressionnants, enfin pas sur mes photos sans doute, mais quand vous verrez le livre, j'ai fait des photos avec l'iPhone, donc c'est pas terrible. Donc ce sont des photos d'une extrême qualité. Alors c'est un livre qui a des caractéristiques techniques qui sont les suivantes. C'est un livre de 600 pages. Qui pèse 5 kilos, presque un pack de lait. Il y a donc 600 photographies couleurs, 680 000 signes, un index et une bibliographie assez copieuse. Alors, si on m'a confié ce livre, c'est que j'en étais pas à mon premier exercice. Le premier datait de l'an 2000 et c'était une espèce de somme scolaire qui envisageait la mode sous différents aspects, avec cette phrase de Barthes en référence. Les changements de mode apparaissent réguliers si l'on considère une durée historique relativement longue et irréguliers si l'on réduit cette durée aux quelques années qui précèdent le moment auquel on se place. Régulière de loin et anarchique de près, la mode semble ainsi disposer de deux durées, l'une proprement historique que l'on pourrait appeler mémorable parce qu'elle met en jeu la mémoire qu'une femme peut avoir des modes qui ont précédé la mode de l'année. Donc c'est un peu le sentiment que donne ce livre aussi quand on le feuillette, c'est-à-dire de loin une espèce de sentiment de régularité et quand on se penche sur les détails, une très grande disparité entre les éléments qui constituent le costume. C'est ça qui m'avait intéressée dans le premier livre, qui était structuré de manière chronologique, réparti en quatre parties, avec à l'intérieur des sous-parties, qui s'intéressaient à l'évolution de la silhouette. Et cette évolution de la silhouette, c'est un peu mon dada, puisque Azan, qui était mon éditeur avant, m'a demandé de le développer dans un ouvrage qui s'appelait « Comment regarder la mode, histoire de la silhouette », qui embrassait le 19e et le 20e siècle, et qui était un manuel pratique dans lequel l'iconographie était analysée de manière très précise, recontextualisée par des petits paragraphes. C'était un exercice d'écriture assez fastidieux, puisque l'histoire était saucissonnée en 125 signes, 150 signes, 250, 320, etc. Et ça, c'était pour toutes les pages. Après, Jean-François Bariel, qui donc nous a malheureusement quittés l'année dernière, m'a demandé d'écrire une brève histoire de la mode qui, là, était une histoire linéaire, c'est-à-dire une histoire qui partirait du moment où je voulais, c'est-à-dire plutôt de Louis XIV, et qui irait sans illustration, ce qui était un paradoxe pour un éditeur d'art, qui irait jusqu'à la période contemporaine, mais qui raconterait cette histoire à la manière de Gombrich, c'est-à-dire très facilement, comme on raconte une histoire à un enfant le soir. Donc il ne s'agissait pas de simplifier les choses, mais il s'agissait d'ouvrir les portes. Alors, c'est un peu cette problématique que j'ai reprise dans l'art de la mode, c'est-à-dire essayer de livrer une histoire qui se lise facilement, parce que c'est un ouvrage de vulgarisation, comme tous les autres, quelque chose qui ouvre des portes, sur différentes disciplines, qui ouvre des portes sur l'économie de la mode, qui ouvre des portes sur la société, sur l'histoire du goût, qui ouvre des portes donc sur l'esthétique, qui ouvre des portes sur l'hygiène, sur l'alimentation, sur le mode de vie, toutes sortes de choses qui ont trait avec la manière de se comporter, la manière de s'habiller. Mon éditeur, en l'occurrence Geneviève Rudolph, souhaitait montrer ce genre de documents, c'est-à-dire des vêtements de près, des vêtements qu'on pourrait analyser vraiment quasiment au microscope, qui permettraient de voir la beauté des réalisations, la beauté technique des réalisations. Le problème de ce type de document, je l'évoquerai un petit peu plus tard, ou je peux l'évoquer tout de suite d'ailleurs. Si je vous montre cette double page, il y a quelque chose, moi, qui me choque terriblement. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui est choquant ? Ce qui est choquant, ce sont les supports de présentation, ce sont les mannequins qui ne sont absolument pas homogènes. Alors, quand on prend une courte période et qu'on choisit de montrer de l'iconographie avec des mannequins, ça ne pose pas forcément de problème, parce que les mannequins sont généralement assez homogènes. Mais quand on couvre 3 siècles, voire 4 siècles, ça devient esthétiquement quelque chose de très difficile à supporter. Et donc, dans ma première sélection d'iconographie, puisqu'on m'avait demandé de me charger de l'iconographie de l'ouvrage aussi, c'est-à-dire de recueillir plus de 1000 documents et de les sourcer, ce qui représente à peu près 3 mois de travail sans lever le nez. Pourquoi vous riez ? ces documents-là, moi j'avais soigneusement éliminé tout ce qui était mannequin et j'avais privilégié les documents de la peinture, les documents livrés par l'art, donc où on voit les détails extrêmement précisément. Donc faire ressortir ce genre de détails. Mais l'éditeur a insisté et préféré ce type de documents-là, c'est-à-dire des documents qui sont conservés dans les musées et sans faire de campagne photographique, parce qu'on n'avait pas les moyens ni le temps de mener une campagne photographique, surtout une campagne photographique qui aurait nécessité de se déplacer partout dans le monde. Parce que tous les documents qui sont présentés dans ce livre proviennent du monde entier. Donc, l'éditeur préférait ce type de document, forcément de très belles images, à ceci. Voilà. Ils ont commencé à tiquer sur la partie contemporaine, parce que forcément, il y avait des images qui n'étaient pas toujours qui étaient parfois assez choquantes, mais ça n'a pas été un problème. Et voilà, on a couvert toute la période jusqu'à la période contemporaine avec parfois ce genre d'accident, ce que j'appelle accident. Ce sont ces têtes, par exemple, qui me choquent terriblement, comme l'absence de tête sur le document double page que je vous ai montré. Mais sur cette double page, j'insiste sur le fait qu'il y a eu un travail énorme de retouche photo pour notamment homogénéiser les fonds. Chaque photo a nécessité un traitement graphique assez important et c'est tout à l'honneur de l'éditeur parce que c'est un travail long et fastidieux et coûteux aussi. Alors, ça c'est l'idéal quand on a la robe et sa représentation. Là ici c'est une peinture, c'est un document qui est conservé aux États-Unis. Donc la robe et sa mise en situation. Et Pour beaucoup de cas, ils se sont arrangés, enfin ils ont essayé de mettre en relation les vêtements qui sont conservés dans les musées et une évocation par la peinture ou par la photo ou par la gravure ou par un quelconque document graphique. Voilà, donc ça amène à des rapprochements comme ça qui sont, à mon sens, assez intéressants et assez inédits aussi. Mais c'est une prise de risque, bien entendu. Alors, ce livre couvre en fait plusieurs siècles et je ne suis pas du tout une spécialiste du XVIIIe siècle, donc ça a été la partie la plus difficile pour moi à couvrir. Mais on part de Louis XIV. Et pourquoi part-on de Louis XIV? En fait, Louis XIV, c'est sous la forme d'une introduction. C'est par rapport à la naissance du luxe, par rapport à ce personnage Colbert, à qui on rend hommage avec le comité Colbert, bien entendu. C'est comme ça qu'on commence les cours en général, en demandant aux étudiants « Est-ce que vous connaissez le comité Colbert ?»« Ah, c'est quoi le comité Colbert ?» Voilà pourquoi le luxe en France est né, a été institutionnalisé, en quelque sorte, à partir de cette époque, et qu'il a commencé à rayonner dans le monde. Donc, la zone géographique qu'embrasse ce livre, c'est principalement l'Europe. Et je me suis attachée à essayer de remettre en situation, dans une situation d'un contexte social, les documents à travers soit des représentations graphiques ou à partir de peinture, soit à travers des documents littéraires. Donc il y a un peu partout des témoignages littéraires qui émaillent le texte pour essayer de remettre le vêtement dans sa situation, dans son contexte social et dans l'ordre des convenances. Il est aussi beaucoup question de convenances dans ce livre. Voilà, donc c'est toujours un parcours chronologique, évidemment, Mais tout est mêlé. Hein, on part du XVIIIe siècle et on arrive aujourd'hui. Là, je vous donne les principaux thèmes que j'évoque, mais c'est chronologique et c'est comme cursif, en fait. On s'intéresse aux personnalités qui font la mode, bien entendu, donc à celles qui la portent, qui la promeuvent, à celles qui en sont les instigatrices, comme aux personnalités qui vont la former de leurs mains, les couturiers, par exemple. Ici, c'est la duchesse de Berry, George Sand, Mademoiselle Mars, les cocottes, les demi-mondaines qui prennent leur revanche à partir du Second Empire et qui deviennent des égéries de la mode, de grandes consommatrices, et puis des personnalités que vous reconnaîtrez, qui sont des sortes d'égéries pour tous les siècles qui suivent. On s'intéresse bien entendu aux métiers, aux professionnels de la mode, à la transformation du système de production et aussi à la transformation du système de diffusion. Donc ça nous amène à parler des métiers de la mode qui sont très divers et qui évoluent. Ça nous amène à parler évidemment aussi du système de la confection qui va se muer en prêt-à-porter dans les années 50 en France et à toute l'histoire des magasins de nouveautés, des grands magasins, et resituer ça dans le contexte de l'époque. On parle bien évidemment des personnalités qui font cette mode. Ici, Rose Bertin, Charles-Frédéric Wurst, Chanel, évidemment. Et puis, les magazines, les supports de diffusion qui couvrent toute cette période qui naissent quasiment sous Louis XIV et qui vont se développer avec tous les moyens de diffusion de l'image qui vont s'améliorer et se généraliser à partir du XIXe siècle. On parle aussi de la construction de l'apparence, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'extérieur qui importe. Je vais essayer, puisque moi, mon dada, c'est aussi cette transformation du corps et cette transformation du corps par la lingerie, par le vêtement, à chaque changement de silhouette, à chaque évolution de la silhouette, je m'attache à donner les explications qui concernent la formation du corps, comment est-ce qu'on va transformer ce corps, donc ici avec les corps à baleine et les paniers, les crinolines pour plus tard, les focus, etc., jusqu'au guépière et jusqu'au wonderbra plus contemporain. C'est aussi faire état de tout ce qui peut être variation par rapport à un même modèle, c'est-à-dire par exemple pour la robe à la française, comment ce modèle se diffuse à l'étranger et devient une robe de cour qui prend des proportions assez gigantesques ou qui se transforme pour l'Angleterre en mantua qui est encore plus extravagante. C'est donc un musée imaginaire qui permet aussi par cette qualité de photographie, de montrer des détails, du vêtement et de montrer des choses qu'on ne pourrait pas voir dans un musée parce qu'on serait trop loin, trop éloigné et caché par une vitrine. Donc ce sont des détails de broderie, ce sont des détails de finition, ce sont des détails de boutons ou d'intérieur de vêtements. Et c'est aussi souligner dans la construction des apparences l'importance des accessoires et l'importance du maquillage et de la coiffure. Et bien entendu, parler aussi de la gestuelle, cette gestuelle qui participe des convenances, en fait, et qui change, qui évolue considérablement au fil du temps. Donc, c'est un livre qui est construit chronologiquement et qui permet de restituer visuellement les évolutions de la silhouette au travers du vêtement et des modes emblématiques de leur époque. Alors ça part de la robe volante, ça montre ce qu'est la robe à la française, ce que devient une polonaise, la robe à l'anglaise. Et puis c'est aussi parler un peu des hommes, beaucoup moins forcément parce que c'est un peu moins ma spécialité et parce que leurs modes sont peut-être moins excentriques, moins visibles, moins connues aussi que celles des femmes, moins documentées. Je me trompe peut-être en disant ça, mais enfin, le vêtement féminin est quand même à la base de ce livre, en fait, et c'est à lui qu'on s'intéresse principalement. Donc ici, un changement total de silhouette avec la période révolutionnaire qui va elle-même changer. Ah oui, je reviens sur cette période révolutionnaire. J'essaye, par exemple, c'est un peu un essai, mais de mettre en évidence le fait qu'une mode, cette mode des robes blanches, par exemple, ne sort pas ex nihilo, qu'il y a plusieurs facteurs qui concordent et qui contribuent à l'établissement et à la généralisation de cette mode. Par exemple, ce coton, ces robes sont principalement faites en coton, ce coton, c'est une nouveauté absolue. Il est issu principalement du commerce triangulaire. Il est diffusé beaucoup par l'Angleterre. Et tout ce qui vient de l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle est fashionable. C'est-à-dire qu'on va s'enticher du coton parce que c'est nouveau, parce que c'est frais, parce que c'est léger, parce que c'est hygiénique aussi, parce que ça permet de mettre en évidence une pratique qui commence à se répandre de nouveau, qui est liée à l'hygiène, à la prise de bain. On recommence à prendre des bains depuis 1750. Et à chaque fois, j'essaye d'ouvrir des portes vers Alain Corbin, vers l'histoire vers Vigarello, enfin vers toutes ces histoires qui sont sans doute très connues de vous, mais qui ne le sont pas forcément du grand public. Donc c'est ouvrir des portes, c'est essayer d'intéresser les gens à d'autres choses. Donc j'en reviens à cette tendance des robes blanches. C'est aussi, avec ce style néoclassique, s'intéresser à toute cette vogue néoclassique qui est née des fouilles d'Herculanum et de Pompéi, de la redécouverte de ces lieux qui montrent une antiquité bien différente de celle qui avait été découverte sous la Renaissance, qui va transformer le goût, qui va transformer l'architecture, qui va transformer le décor intérieur et qui va transformer aussi la mode. On va avoir quelque chose une silhouette beaucoup plus longiligne, beaucoup plus épurée, et ce blanc, c'est drapé à l'antique, qui ne sont pas des robes drapées, mais qui sont des robes coupées-cousues, eh bien, va s'inspirer de cela. Et il va y avoir aussi toutes les découvertes scientifiques, par exemple, la découverte de la Javel au début du 19e siècle. Tout ça va aller dans le même sens. Et c'est cette mode-là, elle ne naît pas d'une simple excentricité d'une personne, elle résulte d'un concours de circonstances, d'un concours de facteurs. Et puis, très vite, ce coton blanc si léger, si fluide, eh bien, par exemple, Napoléon va déchirer les robes, et ça, il y a des témoignages littéraires qui le prouvent, va déchirer les robes parce que c'est un coton qui vient d'Angleterre et qu'il veut relancer les industries de la soie française qui sont en perdition après la Révolution française. Donc, on va passer à ce que savent faire les soyeux, c'est-à-dire des matières plus raides qui vont transformer la silhouette, qui vont l'alourdir, qui vont, de cette robe qui était à l'antique, ne conserver que le décolleté, qui vont s'agrémenter d'une chérusque qui est la chose la plus superflue qui soit, mais qui est un symbole même du luxe et du savoir-faire français. Et ces robes vont s'alourdir parce que la soie lyonnaise est plus lourde que ce coton qui vient d'Angleterre, et ça va transformer la silhouette. Et peu à peu, on va revenir à une silhouette divisée en deux parties. La restauration va restaurer une silhouette plus traditionnelle. Ce règne de Napoléon, on le voit aussi, relance le goût de la parure, le goût des uniformes. Enfin, il va imposer des uniformes aussi bien pour les grandes cérémonies que pour le quotidien, à une majorité d'hommes, ce qui va relancer les industries du luxe de la même manière. Voilà, après, ça va être le grand renoncement masculin. Les hommes vont renoncer à la parure, renoncer aux couleurs, se contenter de ce sombre costume de croque-mort qui sera décrit par Baudelaire, alors que les femmes, petit à petit, comme le dit Philippe Perrault, vont devenir, par un vêtement qui va se couvrir d'ornements, qui va se surcharger, ces femmes-là vont devenir l'enseigne de la réussite sociale de leur époux. Et donc, elles vont être une vitrine du savoir-faire, une vitrine de la réussite du ménage. Donc, des robes qui vont gonfler, dont les manches vont gonfler prodigieusement sous la période romantique, où la taille va être de plus en plus fine. Il faut avoir l'air d'une sylphide, il faut être Il faut avoir l'air habité par le spleen, avoir les yeux cernés, le teint bistre, les pupilles dilatées et toujours un mouchoir à la main. Ça, l'iconographie le montre bien, parce que la femme souffre, parce que la femme est habitée par la passion. Donc, la passion avec Chateaubriand ici qui incarne cette espèce de nouvelle façon d'être, c'est-à-dire extrêmement sobre, mais qui va aussi être celle des dandys qui vont apporter, qui est une véritable philosophie du costume, c'est-à-dire qu'on va apporter énormément de soins à son apparence et la seule fantaisie va finir par résider dans les gilets qu'on va pouvoir superposer, les gilets qui vont être des gilets extrêmement délicats et raffinés. On passe à la période suivante avec le Second Empire, l'ère des crinolines, le démarrage de la haute couture, etc., etc., une consommation qui lance un peu le système de notre société de consommation actuelle. Crinoline qui va être abandonnée vers 1867 au profit du focus, et puis ensuite des modes historicistes, le corset qui jamais n'aura été aussi contraignant avec cette silhouette en S dans les années 1900, où là la femme est une fleur et qui s'inspire de l'art nouveau. Donc une femme est extrêmement sinueuse. Silhouette qui est combattue par les hygiénistes, qui est combattue par beaucoup de choses, dont la montée en puissance du sport, qui fait que le corset va reculer, le corset va descendre sous la poitrine, et avant même que Poiret ne lance sa mode sans corset en 1906, eh bien, déjà, on voit des publications où il est écrit la mode empire, et où on voit le corset descendre sous la poitrine, ce qui connote l'apparition du soutien-gorge, qui apparaît en 1905, pour justement soutenir cette poitrine qui est désormais libre. Et ces robes de Poiret, qui sont si extraordinaires, qui n'échappent à aucun manuel scolaire, aucun manuel d'histoire de la mode, sont en fait un tout petit peu trompeuses, puisqu'elles sont fluides, certes, mais sous la robe, sur la doublure, il y a une ceinture qui serre la taille, qui continue de serrer la taille des élégantes, une ceinture baleinée d'une dizaine de centimètres de hauteur, qui permet de soutenir la taille de ces femmes qui ne pouvaient pas du jour au lendemain se dispenser de corset. Elles avaient été éduquées avec un corset, elles avaient passé toute leur vie avec un corset, elles ne pouvaient pas s'en séparer du jour au lendemain. Cette grande transformation, cette grande mutation des sous-vêtements va s'opérer progressivement et surtout pendant la Première Guerre mondiale où, bien sûr, les nécessités des femmes sont tout autres, où les femmes vont commencer à travailler, à être actives et à avoir besoin de costumes qui vont être beaucoup plus pratiques. Des costumes qu'on va retrouver ici avec l'une des premières parutions de Chanel en tant que créatrice de mode, des costumes de jersey. Elle n'est pas la première à faire des costumes de jersey puisqu'il y avait déjà plein de costumes de jersey dans les rayons des grands magasins, mais c'était des vêtements de sport. Elle va connaître un immense succès avec ses vêtements qui désormais ont des poches extérieures, se boutonnent, mais surtout sont beaucoup plus courts et surtout ne marquent plus les formes du corps comme elle le marquait dans les années 1900. Donc des vêtements plus souples qui laissent augurer une transformation profonde de la silhouette comme on va le voir après-guerre. Après-guerre, c'est un bouleversement total. On veut oublier les horreurs de la guerre et la silhouette de la femme s'en trouve complètement transformée. Et ce modèle-ci, par exemple, qui est simplement deux panneaux de droit fil assemblés sur les coutures d'épaule et sur les côtés, explique pourquoi cette mode a été universelle, pourquoi elle a concerné toutes les femmes de tous les âges, de tous les milieux sociaux et de toutes les aires géographiques. C'était parce que cette mode était simple à reproduire, parce qu'elle était simple à faire. Donc toute femme qui sortait de l'école à 13 ans était capable de coudre une robe qui ressemblait à ça. Donc ça a été le plus grand bouleversement qui soit, c'est-à-dire une diffusion extrêmement large des modes de Paris. Avec bien entendu, à la fin des années 20, et notamment avec la crise de 1929, un bouleversement profond. Là encore, il n'y a pas une seule raison à une transformation de la silhouette, au retour à l'ordre des années 30, mais il y a une concordance de phénomènes que je m'attache à mettre en évidence dans ce livre. Donc un retour à une silhouette traditionnelle, une silhouette extrêmement féminine dans les années 30, avec une inspiration à l'antique, avec des créatrices phares telles que Madeleine Vionnet ou Gabrielle Chanel encore elle, qui change énormément à cette époque-là. Ces premières années des années 30 sont marquées par ce classicisme extraordinaire, avec des productions qui sont absolument merveilleuses, de légèreté, de savoir-faire, d'une technique absolument incomparable. La haute couture atteint ses sommets dans les années 30. Et puis, à partir de 1935, une vague qui est très importante, conduite par Elsa Schiaparelli notamment, avec une introduction de plus de fantaisie, du surréalisme, comme on le voit ici avec une participation de Gala ou des peintres surréalistes. Bien sûr, sont évoquées les années de guerre. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les témoignages ne sont plus aussi esthétiques. Donc Masno, mon éditeur, a eu quelques petits problèmes, mais néanmoins, il y a des reproductions de magazines qui incitaient les femmes à inventer, à être créative. Et il y a des productions durant ces années-là qui sont totalement extraordinaires, mais qui ne sont pas celles de la haute couture. Cette haute couture qui a été isolée pendant la guerre, qui a été mise à mal, d'ailleurs comme la confection, par les autorités, enfin par le régime nazi, eh bien cette haute couture va renaître avec, vous le savez bien entendu, le new look de Christian Dior de 1947. Au passage, cette photo du tailleur bar est une photo beaucoup plus tardive, qui est une photo de 1952 de Willy Mewald. Et il y a cette espèce de raz-de-marée du new look pendant toutes les années 50, avec pourtant des ferments de résistance, et notamment l'arrivée de Chanel en 1954. Là, ce n'est pas une photo de 54, mais une très étonnante photo de Klein des années 60, du début des années 60. Et puis, l'apparition de silhouettes tout à fait autres, prémonitoire de ce que seront les années 60 avec Balenciaga et sa Baby Doll, qui sort en 1957. Et six mois après, Saint Laurent triomphe, lui, avec la ligne trapèze, qui n'est pas sans rappeler ce modèle de Baby Doll de Cristobal Balenciaga. Pardon. Ces années 50 sont aussi celles de l'émergence du prêt-à-porter, qui est chroniqué d'une manière un peu légère, parce que les documents sont difficiles à trouver pour cette période-là dans cet ouvrage, mais néanmoins, le prêt-à-porter y figure aussi. Et puis après, bien entendu, les années 60, avec l'arrivée de créateurs tout à fait novateurs, le pantalon qui s'impose avec Courrèges, avec Cardin, avec Saint-Laurent, avec Paco Rabanne, etc., etc. Donc ici, des modèles phares de Saint-Laurent. Alors il y a une alternance de photos très connues du grand public qui forme un peu l'armature visuelle du livre, mais il y a aussi des photos qui le sont beaucoup moins et qui sont d'autant plus intéressantes parce que elles témoignent aussi de l'évolution des modes au fil du temps. L'arrivée à la fin des années 70 du sport, du jogging, de l'aérobic qui vont transformer la silhouette, qui vont la muscler, et cette silhouette qui va être totalement triomphante, un corps triomphant moulé dans du lycra à partir des années 80, qui voit une silhouette triomphante qui va mettre la mode à la mode. Là aussi, il y a tout un concours de circonstances pour expliquer l'euphorie de la mode dans les années 80, qui va permettre à la lingerie de passer dessus, avec des créatrices notamment comme Chantal Thomas, parce qu'elle se sert de modèles anciens, elle fait des citations, mais elle permet aussi en faisant ces citations, elle va se servir de lycra qui va rendre ses sous-vêtements confortables et qui va les rendre populaires. Donc ce sous-vêtement, eh bien le corps ne va plus être moulé par le sous-vêtement, le corps ne va plus être façonné par le sous-vêtement. C'est à partir des années 80 le vêtement qui va être moulé par le corps. C'est le corps qui va être qui va dicter sa loi aux vêtements. La haute couture va reprendre du poil de la bête aussi dans les années 80, et la mode devenir image avec des créateurs tels que Thierry Mugler qui embrassent la totalité de la création, c'est-à-dire conçoivent leurs modèles, les mettent en scène, imaginent des musiques, des maquillages, des coiffures, des scénographies, des chorégraphies, et vont même jusqu'à photographier les modèles pour avoir la maîtrise totale de l'idée jusqu'à la réalisation et jusqu'à la vente dans un univers qui leur ressemble. Ces créateurs de mode, on le voit en poupe dans les années 80, et à partir des années 80, il n'y a plus aucune image qui ne va être systématiquement retouchée, qui ne sera systématiquement retouchée dans les magazines de mode. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte dans l'histoire de la mode qui est très important. Les années 80 sont également marquées par l'apparition des Japonais. Ce raz-de-marée japonais à partir de 81, Reikawa Kubo et Yoji Yamamoto, qui vont mettre un petit peu de temps à se diffuser, mais qui vont finalement s'imposer, notamment à partir des années 90. Et puis, changement de tableau à partir des années 90, la mode fait profil bas, le minimalisme s'impose, d'autres systèmes de consommation voient le jour, qui veulent être plus intelligents, qui vont découvrir par exemple le vintage, enfin qui vont remettre à l'honneur des pièces anciennes auxquelles on va donner une valeur ajoutée. On va transformer le système de consommation, on va devenir plus intelligent, les garde-robes sont pleines d'ailleurs, et peut-être qu'on va découvrir la mode va découvrir de nouvelles voies. Elle s'est mondialisée. Ce qui compte désormais, c'est l'accessoire. L'accessoire parce qu'il est plus facile de vendre un sac que de vendre de la lingerie ou de vendre des vêtements de par le monde. Ces sacs, ces chaussures qui vont marquer la personnalité, qui vont dire qui l'on est à la place de ce qu'était la panoplie vestimentaire dans les années 80. Et puis, il va y avoir sur la scène de la mode l'apparition de nouveaux créateurs tels que Martin Margiela, tels qu'Hussein Chalayan, ou bien des transformations sur le corps avec Reikawa Kubo, par exemple, ici. Une médiatisation beaucoup plus importante de la mode. L'homme aussi qui va être concerné beaucoup plus concerné par la mode qu'il ne l'avait jamais été. Et la mode, plus que jamais, se fait image, doit être immédiatement visible, doit être immédiatement compréhensible, puisqu'elle est immédiatement retransmise par Internet. Elle doit marquer les esprits, elle doit plus que jamais faire rêver, elle doit plus que jamais être portée très haut, les valeurs de la création. Et c'est ici, avec John Galliano pour Christian Dior, une image assez féerique, puisqu'elle reprend. C'est une image à tiroir qui est un hommage à plusieurs niveaux. Et cette mode, aujourd'hui, eh bien, avec des créatrices comme Iris van Herpen, on peut la considérer sans doute à juste titre comme un art. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions s'il y en a.
Si vous voulez, je vais être obligée de m'éclipser.
Deux minutes de questions. Catherine, on va partir. Si vous avez des questions, merci beaucoup pour cette présentation.
Merci.
J'avais une question sur avec les relations avec l'éditeur et les droits de reproduction des photos. Puisqu'il y en a tant et que ça a dû être un enjeu très important.
C'est un an de travail. Un an de travail pour l'éditeur, avec bien entendu des difficultés avec certains photographes. Par exemple, il n'y a pas de photographie ni d'Avedon ni de Newton dans cet ouvrage, tout simplement parce que ces deux photographes exigent d'avoir une page blanche en regard de leurs photos. Et ça, c'était juste pas possible par rapport au chemin de fer de Citadel et Masneau. Voilà. Est-ce que c'est ça que vous voulez savoir ? Alors sur le budget, oui, c'est assez considérable et c'est ce qui fait vraiment la différence avec les deux autres livres que j'avais précédemment publiés. C'est que il y a aussi des négociations qui se font puisque il y a différentes sources. Il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup d'institutions privées. Je salue au passage la Maison Dior qui nous ont prêté leur concours aussi. Donc qui nous ont aidés par le prêt de documents, enfin ou par l'autorisation de publier un certain nombre de documents. Voilà.
Le prix du livre,
je le cache parce qu'il est 205 euros.
Il est très lourd. Mais il peut être... Alors là, je vais faire le commercial. Vous pouvez négocier avec Citadel et Masno un échelonnement des paiements jusqu'à 20 euros par mois. Enfin bon, je ne sais pas trop. Moi, je le sais très bien parce que j'ai passé un an à l'écriture, à ne faire que ça. Donc, mais à la fois, j'avais un atout puisque j'avais déjà écrit deux livres dont l'un faisait 600 000 signes, mais qui ne concernait pas le XVIIIe siècle. Et l'autre était, je crois, aux alentours de 400 000 signes aussi. Donc, si vous voulez, les choses étaient en place. Après, c'est un travail de restructuration, de plan et d'écriture, parce que... Mais il y a eu très peu de corrections, et il y a eu juste des ajustements sur les transitions, sur les titres, voilà, les intertitres.
Donc, il y a beaucoup de travail, c'était sur les retouches, les photos, et non seulement, à part votre travail à vous...
Non, le gros du travail, en fait, c'est... Il est de deux ordres. Le premier, c'est de concevoir le texte au regard de l'image, parce que l'impératif qui m'avait été donné, c'est 1500 signes, une image. Donc, arriver à dire ce qu'on veut dire en illustrant systématiquement, ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Voilà. Et je dois dire que je rends hommage à Citadel et Masno parce que c'est un des seuls éditeurs que je connaisse qui lit aussi bien les textes et qui met les images en regard. Et ça, c'est très important. Et pour le lecteur, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est plus facile à lire, d'autant plus que ce n'est pas un livre de chevet, ce n'est pas un livre qu'on lit au lit, malheureusement. Voilà.
Oui, en fait, le domaine est très, très vaste et vous l'embrassez.
Je vous entends très mal.
Oui, je dis que le domaine est très, très vaste et vous le plus que survolez dans toutes ses dimensions. Il y a quelque chose que je voudrais vous demander dans le texte, parce que je pense que vous ne pouvez pas le faire dans l'image. Comme vous avez parlé des personnalités qui portent la mode, et est-ce que vous abordez un petit peu le déplacement de ces personnalités qui d'abord étaient des personnalités littéraires ou féminines, enfin, dans les tableaux, en abordant le phénomène du cinéma et des stars et des actrices qui deviennent aussi vecteurs de cette mort?
Non, je le fais très peu. En fait, je le signale, mais je ne peux pas m'étendre, parce que d'ailleurs, je ne suis pas du tout compétente dans ce domaine.
Mais je trouve que c'est un développement.
Bien sûr, c'en est un, bien
entendu. Et après, ça, c'est vraiment une anecdote, mais j'ai écouté hier le débat entre Finkielkraut et Danny Cohn-Bendit, et Finkielkraut a évoqué la francitude par l'élégance féminine et le port d'une silhouette en évoquant Vuillard. Alors bon,
oui, ben voilà, c'est peut-être et cette Proust, francitude, Vuillard, oui. Proust, voilà. Plus modestement, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre, parce que en fait, dans le monde de l'édition, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on touche les avaloirs, on ne connaît pas le tirage auquel l'éditeur, ce que tire l'éditeur. Je pense que c'est aux alentours de 5000 exemplaires, mais c'est juste une supputation.
Merci,
ben, je vous en prie, merci à vous.
Alors, je pense que Catherine ne peut pas rester. Ma fille se
paxe. Donc... Et on voulait juste recommencer cette deuxième partie de la séance par un petit bilan de 2015 qu'on a publié, où Sophie, qui maintient le blog, qui fait un excellent boulot, a publié sur le blog pour faire le bilan de 2015. Et on ne va pas trop parler de nous, ce qu'on fait, plutôt que ce que les autres ont fait, mais juste pour vous tenir au courant que nous, on a deux journées d'études qui vont venir, un sur les échanges franco-américains qui sera en mai, le 15 avril, une journée entière, et une autre qui sera en octobre prochain sur les échanges franco-allemands, et ça sera entre Paris et Berlin. Ça va être très intéressant, c'est organisé avec Adelaide Rasch au Lipperheide à Berlin, donc on fera deux journées, une à Paris et une à Berlin, et on vous donnera les informations quand ça arrive. Et sinon, déjà, la meilleure nouvelle de l'année dernière, de 2015, c'était quand même la soutenance de thèse de Damien de Lille, qui est ici avec nous, qui essaie de se cacher. Félicitations Damien, qui a soutenu une thèse brillante, je pense qu'on en a parlé ici, voilà, Damien.
Donc 23 octobre, docteur en histoire de l'art. Et je pense que ça mérite des applaudissements. Sachant que Maud est juste au-dessus, elle avait soutenu. Ouais.
Comme docteur. On est docteur là.
Et c'est quoi le titre de la thèse, excusez-moi, qui subit. Ah bah écoutez, Damien. Et Maud, tu peux peut-être me rappeler ta thèse, ton titre ?
Moi, c'était en anglais, donc je vous donne la version française, mais c'est sur l'histoire de la mode, donc l'historiographie de la mode, l'utilisation de la mode comme source pour l'histoire entre 1815 et 1900. Voilà. Donc nous avons ce séminaire qui est mensuel, mais on voulait aussi parler des autres groupes qui travaillent sur l'histoire de la mode en ce moment. Il y a le groupement d'intérêt scientifique, le GIS, Apparence, Corps et Société, dirigé par Jean-Pierre Le Tuilier, qui réunit des chercheurs de partout en Europe et qui vient de lancer un blog qu'on publiera aussi sur le site. Comme ça, vous pouvez voir. C'est une nouvelle initiative et on attend de voir les résultats. Sinon, il y a la deuxième partie du séminaire de l'INHA sur la mode masculine. Dirigé par Philippe Thiebaud, qui est ici présent dans la salle. La prochaine séance sur
Talon, cravate noire, et puis une chose beaucoup plus banale, mais je pense qu'il y aura une approche en revanche assez originale sur les formes des cravates.
Super.
Toujours dans la tranche chronologique 1820-1970, bien sûr.
Parfait. Il y a aussi le séminaire du GMOD qui est dirigé par Émilie Coutan, qui a un nouveau format cette année. Nous avons reçu le communiqué, on attend de voir pour la première séance, on le diffusera sur le blog. Il y a l'atelier Anthropologie des mondes de la mode à l'EHESS, dirigé par Anne Monjaret, qui peut nous en parler.
Oui, la prochaine, c'est un format un peu différent que l'on fait d'habitude. C'est 2 journées d'études sur les mises en scène de la mode. Sinon, depuis le début de l'année universitaire, il y a eu des thèmes comme mode et précarité. Il va y avoir mode et patrimoine, mode et globalisation. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, la première séance était sur fashion mixte et la séance a eu lieu au musée d'histoire de l'immigration, puisqu'il y a eu un numéro de la revue sur que j'ai dirigé, qui reprend et qui est une suite de fashion mixte. Voilà, vous avez tout ça dans le... Voilà, donc qui réunit des anthropologues, des sociologues, pas seulement donc des historiens. C'est là où on est complémentaires, parce que j'ai voulu ouvrir sur des domaines qui étaient finalement peu développés. Mais l'idée, c'est de faire des passerelles, justement, entre nos séminaires. Et à l'École des hautes études, il y a aussi de nouveaux séminaires qui se mettent en place. Et on voit qu'il y a cette thématique de la mode est en train de se développer.
Super. Voilà. Et en dernier lieu, last but not least, il y a le lancement de la nouvelle revue Mode Pratique. On n'a pas un exemplaire ici, malheureusement. On en vendait la dernière fois. Il est excellent. C'est dirigé par Manuel Charpie et... Pascal Verdier, Patrice. Voilà. C'était sur normes et transgressions. Il y avait une vingtaine d'articles dans une par Émilie Amène, qui est ici doctorante. Elle est là, Émilie. Ah oui. Voilà. Oui, voilà. Et c'est vraiment...
C'est un bel objet avec beaucoup de textes.
Très riche, très beau. Et on
peut l'acheter ici, online ou dans des librairies. C'est marqué sur la page. Oh, ils ont fait une deuxième tirage. Voilà. Donc voilà, on voulait vous parler de ça. C'est ce qui se passe sur la mode en 2016.
Sur les journaux intimes comme source pour l'histoire de la mode, on aurait dû l'emmener. Ah ouais. Mais on a une femme...
Elle avait 12 ans en 1940 et qui a écrit 27 volumes de journaux intimes jusqu'en 1947 et donc qui a redécouvert très récemment avec sa petite fille ses journaux intimes qu'elle n'avait jamais réouverts. Et elle parle beaucoup de mode dedans, comment faire la mode.
Elle poste elle découpe des images de mode dans son journal et elle met des petits... Elle raconte.
Elle parle beaucoup de Jay américain, de Teddy, mais elle parle aussi beaucoup de mode et donc elle va venir... Béatrice Bellen, qui travaille au Museum of London, que vous connaissez sans doute, viendra, elle, expliquer pourquoi elle travaille là-dessus, comment elle a trouvé cette source, qu'est-ce qu'elle veut en faire. Et on aura Philippe Lejeune, qui est un spécialiste de l'autobio, et qui va venir nous parler de est-ce qu'on peut considérer un journal intime comme une source, ou au contraire, et je pense que c'est un peu sa thèse, est-ce que c'est une source, ou est-ce que c'est pas du tout une source, est-ce qu'il faut s'appuyer dessus pour les chercheurs. Donc c'est une séance très complémentaire et on aura une présentation aussi de Brigitte Schittler qui vient de Suisse et qui nous parlera de tout à fait autre chose, mais c'est encore un focus sur... elle a lancé il y a un an et elle continue un projet sur l'industrie de la chaussure, l'histoire de l'industrie de la chaussure à travers les siècles. Donc elle va venir nous présenter son programme de recherche qu'elle prolonge en Suisse, bien sûr. Donc voilà, les journaux intimes principalement.
19 février, 14h30, et sinon l'inscription pour lundi et mardi en anglais pour Agnès Rocamara lundi et en français...
Voilà.
Est-ce que Agnès
Oui, c'est la même. Voilà, merci beaucoup et bon week-end.